France Culture.
À Voix Nue, épisode 5, une bouteille à la mer. Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour.
Une bouteille à la mer paraphrase évidemment votre best-seller, on peut le dire comme ça, best-seller de 2005, traduit en 18 langues, vendu dans près de ou plus de 500 000 exemplaires à ce jour, on enregistre en toute fin 2025, une bouteille dans la mer de Gaza. Paraphrase de ce titre, de votre livre, parce que j'aimerais qu'on commence ce dernier épisode de nos Avoix Nues par un retour sur ce livre. Un retour sur ce livre qui ouvre beaucoup de choses à mon sens. D'abord, parce que ce livre a rencontré un immense succès, et donc je pense que ça n'est pas rien pour vous, autrice. Ensuite, parce qu'il a été adapté au cinéma, et que ça nous permet de parler de votre autre travail, qu'on n'a pas encore abordé, qui est le travail du scénariste. D'ailleurs, vous avez un travail à rendre demain, donc il faut qu'on se dépêche. Et puis aussi parce que ce livre-là, Une bouteille dans la mer de Gaza, dit à mon sens, interroge beaucoup de choses qui vous taraudent encore, et tente de jeter une bouteille à la mer, de fait, c'est-à-dire tente d'approcher l'autre, l'étranger, de voir l'étranger en soi, et pour le dire de façon plus enfantine, peut-être plus candide, est un désir de paix. Donc, travaille aussi la façon dont, depuis le 7 octobre 2023, Valérie Zenati, on vous voit, on vous entend, peut-être plus dans les médias, parler, et pas seulement écrire. Voilà pourquoi je voulais intitulé cet épisode « Une bouteille à la mer ». Alors, « Une bouteille dans la mer de Gaza », c'est la correspondance entre Tal, qui est une jeune fille israélienne qui vit dans la ville de Jérusalem, et Naïm, qui est un jeune homme qui habite à Gaza. Quelle est la genèse de ce roman ?
Ce roman, je pense à la fois que, comme beaucoup de mes livres, il a mûri à mon insu pendant très longtemps, et il a surgi très exactement au moment où il commence, c'est-à-dire le 9 septembre 2003. C'était la deuxième intifada, donc le deuxième soulèvement palestinien. Et il y a eu un attentat à Jérusalem, au café Hillel. Ce soir-là, j'étais en ligne avec une amie qui habitait là-bas, à côté. J'ai entendu l'explosion. Et j'ai su un peu plus tard que dans ce café était morte une jeune fille qui devait se marier le lendemain et qui était descendue boire un café avec son père, un urgentiste très connu, qui est mort aussi. Et il y a eu ce télestoppage entre le mariage qui devait avoir lieu le lendemain et l'enterrement qui finalement a remplacé le mariage. Donc on avait là de manière condensée, c'était une tragédie. Et de surcroît, le 9 septembre, c'était le jour de la première signature des accords d'Oslo, qui a eu lieu en deux temps. Il y a eu le 9 et le 13. Et on était exactement 10 ans après ces accords que j'avais suivis lorsque j'étais journaliste, auxquels j'avais cru. Et le télescopage, là aussi, dans le temps, en 10 ans, on était passé d'un espoir auquel tout le monde adhérait, ou presque, à un désespoir qui, moi, me bouleversait. Alors que, bon, j'étais à Paris, je ne vivais pas les choses directement, mais c'est une région du monde où j'ai vécu 8 ans. Et, comme je le racontais, ma conscience politique s'est quand même vraiment beaucoup éveillée et a beaucoup tourné autour de la première intifada, autour des questions brûlantes au Proche-Orient, des frontières, des légitimités, des identités, et aussi des récits et de toutes les mythologies qui accompagnent ces jeunes peuples, parce que les jeunes peuples ont besoin de s'inscrire dans une mythologie forte, sinon ils n'ont pas de légitimité. Ça, ce sont des questions que j'ai vécues à la fois de manière très intime, parce que je connais tout simplement des gens des deux côtés. Lorsque vous connaissez des gens des deux côtés, vous ne pouvez pas déshumaniser un camp ou l'autre. Et puis, sur le plan politique, c'est un sujet qui n'intéresse pas que moi et qui me semble très révélateur de l'état du monde et de l'état de la pensée. Et donc, j'ai continué de m'y intéresser. J'avais écrit « Quand j'étais soldate », qui est paru en 2002. Et j'ai fait énormément de rencontres et on me posait toujours la question « Que pensez-vous des Palestiniens ?» Et je disais, mais je ne pense rien des Palestiniens. Je peux penser quelque chose des gens que je rencontre. En revanche, qu'est-ce que je pense de la situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens et les Israéliens ? Là, je peux parler d'une double légitimité, justement. Et lorsqu'il y a eu cet attentat, J'ai ressenti ce que ressentait au début, à la fois de la tristesse, mais aussi de la colère. Et j'ai tenu à prêter attention à ça, parce que je pense que beaucoup d'erreurs sont commises au nom justement de ce qu'on ne s'avoue pas d'abord à soi-même. Et donc on se ment un peu et on ment aux autres. Moi je pense qu'il était tout à fait normal de ressentir cette tristesse et cette colère en apprenant que cet attentat avait eu lieu, en entendant sa résonance. Et que ce qui m'intéressait à moi à travers le livre, c'était de dire, essaie de dépasser cette colère et d'aller, par les moyens de la littérature, de l'écriture, d'aller voir de l'autre côté et de te mettre à la place de l'autre côté. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'en écrivant cette correspondance, donc entre Tal et Naïm, vous avez beaucoup parlé de géographie, et c'est vrai que je n'imagine pas un livre qui ne serait pas lié à la géographie d'une certaine manière et à l'histoire d'une autre. Lorsque j'étais à Jérusalem, je sentais beaucoup la lumière de Jérusalem et une certaine quiétude qui peut exister dans la ville, dans certains quartiers que j'ai connus, malgré tout. Il y a des havres de paix où a vécu Aaron Appelfeld, notamment d'ailleurs. Et lorsque j'étais Naïm, j'avais d'abord, en commençant à écrire, du mal à respirer. J'avais toujours ma respiration qui se bloquait. Et pour écrire son personnage, j'ai beaucoup lu, beaucoup enquêté. Je me suis inspirée des Palestiniens que j'ai connus de Cisjordanie. Et j'ai laissé surgir cette voix. Et l'écriture de ce livre a été pour moi une façon vitale de trouver cette double humanité. Après, quand j'ai écrit la dernière phrase, j'ai eu très peur parce que je me suis dit que c'était un livre qui n'allait pas parler à personne.
C'est pas un livre qui a parlé à personne. Hein.
Non.
C'est un livre qui a parlé à beaucoup de monde. Est-ce que le formidable succès de ce livre, peut-être plus encore que de tous vos autres livres, ne dit pas, là c'est la voix candide qui parle en moi, ne dit pas quand même, à ce moment-là en tout cas, donc il y a 20 ans, un espoir de rapprochement ? De double humanité.
Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il y a dans le monde, parce que vraiment, j'ai fait des rencontres autour de ce livre en France, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Italie. Enfin, ce que dit le succès de ce livre et toutes les rencontres qui ont existé, c'est qu'il y a des gens partout qui sont prêts à accueillir cette double voix. Et qui comprennent au fond d'eux que si on se place uniquement d'un côté ou de l'autre, il y a un angle mort. Et donc, on ne rend pas compte de quelque chose qui est intimement lié. Après, ce qu'il est important de souligner, c'est que le livre n'a pas été traduit en hébreu, il n'a pas été traduit en arabe.
C'est dommage.
Et voilà. Et que donc, on est dans une existence qui concerne, on va dire, les deuxième ou troisième cercles des personnes concernées, ceux qui sont observateurs, ceux qui sont témoins, ceux qui sont curieux, même si des Israéliens et des Palestiniens ont lu le livre ou vu le film. Mais c'était à titre individuel. Moi d'ailleurs, je n'ai pas cherché à faire passer de message à travers ce livre. Je cherchais vraiment à éprouver, puis faire éprouver, ce qui me déchire, c'est-à-dire une double légitimité qui s'affronte dans le sang et dans les armes, alors qu'encore une fois, il y a eu un espoir à un moment donné et une possibilité qu'un accord soit trouvé. Voilà, c'est comme ça que le livre a surgi.
Le livre a fait l'objet donc d'une adaptation au cinéma en 2012 par Thierry Binisti. Vous avez participé à l'écriture du scénario. C'est pas la première expérience que vous avez eue parce que je crois que il y avait déjà eu Ultimatum adapté dans Retard pour la guerre. J'aimerais bien que vous nous parliez de ce travail qui est le vôtre, Valérie Zenati, de scénariste, parce que il me semble que vous parlez assez peu de ce travail d'écriture différent, à moins que ce soit parce qu'on vous en pose peu des questions.
C'est vrai.
Je sais pas, mais voilà, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce travail d'écriture.
C'est vrai qu'on m'en pose peu, mais il est arrivé qu'on m'en pose pour des journaux spécialisés et où le journaliste me dise « mais à part des scénarios, vous faites autre chose ». Et donc, bon, chacun regarde et prend dans ce que je fais ce qui l'intéresse. Pour parler déjà spécifiquement de cette adaptation-là, ce qui m'a intéressée dans la proposition de Thierry Binisti, c'est qu'au départ, j'étais réticente, que c'était un livre inadaptable et que j'avais tout dit dans le livre. Or, lui m'a convaincue qu'on pouvait l'adapter. Et là, j'ai compris que l'adaptation signifiait tout rejouer et tout remettre sur le tapis et pas me contenter de transposer à l'écran ce que j'avais écrit.
C'est une réécriture.
C'est une réécriture. On a notamment décalé les choses dans le temps parce que j'avais écrit le livre pendant la deuxième intifada. Or, l'écriture du scénario, un scénario c'est très long, a basculé, ou nous a fait basculer dans le temps du désengagement d'Israël de Gaza. Donc Israël a quitté la bande de Gaza, la prise du pouvoir par le Hamas, puis la première guerre entre le Hamas et Israël, plomb durci. Et donc on voyait l'actualité évoluer, on voyait la marche de cette histoire, et je trouvais plus juste d'accompagner ça. Et d'accompagner ça à travers de nouvelles questions. Même si le mouvement initial d'être des deux côtés était toujours important. Et le cinéma me permettait aussi autre chose, c'était de placer le spectateur dans la position de pouvoir voir deux êtres qui, eux, ne peuvent pas se voir. Ça plaçait le spectateur dans une position active et ça dit quelque chose aussi de ce conflit. Parfois, à l'extérieur, les gens font l'histoire, la refont, en débattent, parce que eux, ils ont la possibilité de voir les deux côtés. Mais des deux côtés, il est très difficile de voir l'autre. Et ça, le cinéma m'a permis, parce que c'est un autre médium. Et donc, je dirais que mon travail scénaristique est un type d'écriture qui m'intéresse aussi, parce qu'il s'agit de maîtriser quelque chose que je ne maîtrise pas trop d'habitude. Lorsque j'écris, je lâche vraiment toutes les défenses possibles. J'ai beaucoup aimé la phrase de Marguerite Duras disant un jour « Je ne suis pas du tout concentrée, au contraire, je suis ouverte et je me laisse traverser. » Et donc, lorsque j'écris, je me laisse traverser. Lorsque j'écris un scénario, je dois maîtriser quelque chose. Et c'est un vrai défi. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime ça, c'est que ça offre la possibilité de travailler avec les images, avec la musique en direct, on va dire, et puis avec une équipe. Et l'écriture et la traduction étant très solitaires, ce travail qui se transforme en travail d'équipe à un moment donné me mène vers tout ce que j'aime, c'est-à-dire la relation amicale parfois, mais la relation qui passe par le désir de création.
Vous n'avez pas seulement écrit des scénarios adaptés de vos livres, hein ?
Non, pas du tout.
Vous écrivez des scénarios pour des réalisateurs autres.
Oui, par exemple, il y a eu...
sur des projets très différents.
Très différents. Il y a une autre expérience que j'ai beaucoup aimée, c'est Les secrets de mon père, l'adaptation d'une BD de Michel Kishcha, deuxième génération. Et c'est un film d'animation sur lequel j'ai travaillé avec Vera Belmont, qui est vraiment une des dernières monstres sacrées du cinéma français, qui a connu Berry, Lanzmann, Belmondo, enfin, et qui avait fait un film qui avait, voilà, Rouge Baiser, dont on avait beaucoup parlé à l'époque, et travailler avec Vera sur ce film d'animation qui parle des traces insidieuses de la Deuxième Guerre mondiale dans une enfance belge après-guerre, ça a été aussi une manière d'apporter quelque chose à un travail collectif, d'intime. Voilà, l'écriture du scénario, c'est une façon d'apporter quelque chose d'intime à un travail collectif.
Vous parliez du travail en musique ou avec la musique. Il est un livre, si on avance dans le temps, il est un livre que vous avez publié en 2024 qui s'appelle « Qui vive ?», où il est question de musique et de la façon dont la musique vous accompagne. Valérie Zenati, c'est l'histoire de Mathilde qui est prof d'histoire. Elle est chavirée sous les coups de boutoir successifs de l'actualité. Ça commence par la mort de Leonard Cohen et l'élection première de Donald Trump en 2016. On passe par la pandémie de Covid 2019, la guerre en Ukraine. Et puis il y a des chocs personnels, elle perd son grand-père. Elle perd le sens même du toucher et elle décide de prendre un avion pour Israël. Elle est marquée en particulier par une vidéo qu'elle croit sur Internet de Leonard Cohen. Une vidéo qui date de 1972 en Israël, qui l'a fait réfléchir sur son rapport au temps. Et au moment où je vous parle de Leonard Cohen, donc de la musique, mes yeux se lèvent vers chez vous, là où on est, et je vois deux photos de Leonard Cohen. Donc Leonard Cohen, il tient une place importante dans votre vie.
Oui, alors ce sont deux photos offertes par des amis chers. Et Leonard Cohen m'a beaucoup accompagné évidemment dans l'écriture de Qui vive, et j'ai regardé des documentaires avec lui, j'ai écouté sa voix. Et il m'accompagne de plus en plus avec le temps. D'ailleurs, je me suis souvenue que c'était aussi le chanteur préféré d'Aaron Appelfeld. Parce que chez lui, il y a un désir de poésie face au chaos du monde. Et c'est peut-être quelque chose que je cherche à ma manière aussi. En fait, c'est une nécessité, c'est pas une prétention. Je ne dis pas que j'y arrive, mais je sens que je ne pourrais pas vivre dans le chaos du monde sans chercher des images, des mots, un timbre qui va donner une résonance qui me permet de sentir que, à partir de ma place, j'arrive à éprouver quelque chose de vivant, j'arrive à rendre compte de ce qui me dépasse. J'ai écrit ce livre dans un sentiment de pressentiment. Je n'ai pas écrit ce livre en étant tournée vers le passé. Et je sentais que j'écrivais sur quelque chose qui n'avait pas encore eu lieu. Et ce quelque chose, c'était à la fois la guerre entre Israël et le Hamas, et puis la deuxième élection de Trump.
Et les livres ne suffisent plus, Valérie Zenati, pour que... Je ne dis pas qu'on ne vous entendait pas avant. J'ai commencé ces entretiens à voix nue en disant que votre voix était familière des auditeurs et des auditrices des antennes de Radio France. Mais il me semble, peut-être que je me trompe, mais que vous êtes intervenu, disons, plus en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire moins par vos écrits, par vos traductions des livres d'Aaron Perlfein, même par les films que vous avez adaptés, que par votre réflexion, votre préoccupation du monde, votre désir de poésie ou de réconciliation des êtres, ou peut-être même de quête de sens oui. général, qu'avant.
Oui, alors dès le 9 octobre, on m'a sollicité pour prendre la parole sur un plateau. Et je pense qu'on est venu à moi parce que, effectivement, une partie de mon travail est liée à cette région. Donc, il y avait cette légitimité-là. Ce sont des questions que je travaille et que je continue de travailler. Et puis ensuite, je crois que ma parole, qui ne cherchait pas à affirmer une opinion, mais qui cherchait à éclairer autant que possible quelque chose qui a surgi le 7 octobre et qui a été ces journées atroces d'inhumanité et qui a tout de suite donné lieu à des combats de tweets et de je ne sais quoi, qui étaient d'une grande violence et d'une grande indécence surtout. En fait, c'est ça qui m'a frappée. Ce qui m'a frappée, c'était pas tant que les gens se sentent plus proches d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'on peut, affectivement ou pour d'autres raisons, se sentir plus proche d'un côté que de l'autre. Mais en revanche, avoir l'indécence de ne pas reconnaître les souffrances, je trouve ça humainement inacceptable. Et je n'ai jamais cherché à être une intellectuelle ou à être présentée comme telle, mais je me suis jamais dérobée à l'idée qu'on pouvait, à partir d'une observation qui est la mienne, qui est celle des êtres, la littérature c'est ça, c'est observer les êtres et chercher les mots pour essayer de relier ce qui est totalement éclaté, peut-être qu'à partir de là, je pouvais apporter quelque chose. J'ai eu beaucoup de doutes en prenant la parole. J'ai refusé beaucoup de sollicitations sur des plateaux où on n'avait pas le temps de parler ou bien où il fallait plutôt se disputer avec les autres. Moi, ma préoccupation, parce que j'ai eu le sentiment qu'on était convoqué par ce qui se passait, que ça rejaillissait sur nous aussi, qu'il y avait là, dans ce mouvement de l'histoire, des fractures multiples. C'est plusieurs fractures ouvertes. Une fracture au sein même d'Israël. Une fracture, évidemment, entre les Israéliens et les Palestiniens. Une fracture au sein même des Palestiniens, parce que tous n'étaient pas derrière le Hamas pour qu'ils commettent ça et n'ont pas soutenu cette guerre. Une fracture ici et une fracture interne au peuple juif, qui est quand même quelque chose, même si moi je ne suis pas du tout liée à une communauté ou au sentiment de communauté. Je dirais même intellectuellement, littérairement, la question de l'être juif, c'est quelque chose qui m'accompagne. Et je crois que ce qu'on appelle le peuple juif, ou les juifs dans le monde, vivent une des plus grandes crises depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, dans le lien avec Israël qu'ils ont ou pas.
Comment vous relisez aujourd'hui Une bouteille dans la mer de Gaza à l'aune de ces dernières années, de ces derniers événements ?
Je le relis comme un avertissement parce que quand je l'ai écrit, et je crois même que c'est présent dans le livre ou le film, il y avait cette idée que si rien n'est fait à ce moment-là, en 2003, alors, dans 20 ans, il y aura beaucoup plus de sang qui coulera. Et ça, j'en avais la certitude, qu'en une génération, on allait assister à quelque chose de beaucoup plus violent. Et donc, pour moi, il résonne comme un avertissement. et aussi comme peut-être la trace de quelque chose qui est en moi et qui est, après un long chemin, la conscience que moi-même, je suis constituée de, vous l'avez dit, de lieux différents, de langues différentes. Ma grand-mère parlait arabe, elle parlait arabe bien mieux que le français. Et elle avait des coutumes qui n'étaient pas que religieuses, elle avait des coutumes qui étaient liées profondément à la Tunisie et à des croyances qui sont des croyances berbères.
Elle était tunisienne, elle avait été mariée à un Algérien, je ne suis pas sûre qu'on l'ait dit.
Oui, voilà, tout à fait. Et donc, elle avait des croyances qui étaient un mélange de superstitions et de traditions berbères. Moi, en fait, je n'ai pas envie d'ailleurs de parler d'identité quand je parle de moi, mais au contraire de la conscience que je suis faite de voix, de langues, de paysages multiples et que je refuse qu'on trace des frontières infranchissables entre les êtres.
Et est-ce qu'il n'y a pas, Valérie Zenati, dans cette convocation, vous avez utilisé le mot de convocation, comme un appel de la voix en vous d'Aaron Appelfeld? Parce que vous avez dit que vous aviez besoin d'éclairer, vous cherchiez à éclairer. Et vous parlez souvent d'Aaron Appelfeld comme d'un grand éclairagiste.
C'est vrai.
D'une part. D'autre part, il me semble que s'il y a une des plus grandes forces de l'œuvre, et peut-être même l'homme, moi je l'ai vu qu'une fois, mais d'Aaron Appelfeld, c'était l'empathie. Et c'est ce que vous tentez, me semble-t-il, quand vous intervenez, comme vous le faites, d'être à la place des autres, et ce dont on manque dans notre monde. Est-ce que Aaron Appelfeld ne résonne pas très fort, lui, qui vous regarde, puisqu'il est aussi en photo chez vous?
Oui, alors, oui, mais toutefois, Aaron Appelfeld se tenait à l'écart du débat public. Mais il y a évidemment quelque chose dans la façon dont il m'a appris à regarder, et qui d'ailleurs se méfiait de l'empathie tout en la travaillant. C'est-à-dire que l'empathie réelle, c'est vraiment ressentir ce que ressent l'autre. Et ça, c'est très souvent impossible. Et puis parfois, ça peut aussi nous entraîner dans les affects ou la douleur de l'autre, et donc dans l'incapacité de penser. Je parlerai plus de questions de point de vue, c'est-à-dire d'essayer, à partir de son propre point de vue, de comprendre celui de l'autre, de se déplacer, mais plus intellectuellement qu'affectivement, en fait. Et plus avec des choses qui s'appellent des principes. Il y a des principes moraux. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir d'humanisme sélectif, c'est pas possible. Dans cela, ce n'est plus de l'humanisme. Et donc, garder une forme de rigueur, pas pour donner des leçons, mais pour chercher des solutions. Et je dirais que si j'ai accepté ces sollicitations, c'est parce que je sentais que quelques personnes éprouvaient une forme de gratitude en disant « Oui, on peut aussi parler de ces sujets sans se foutre sur la gueule, sans tomber dans le cliché de « on ne peut pas parler ». Et je crois aussi que on est dans une société où les artistes ou les écrivains peuvent avoir une parole qui n'est pas en surplomb, parce qu'on ne peut pas écrire en surplomb, moi je n'écris pas en surplomb. Avoir une parole qui se place à hauteur humaine pour aussi apporter quelque chose au mouvement politique qui nous menace, enfin on est dans une période quand même extrêmement inquiétante, et donc il ne s'agit pas uniquement de signer des pétitions ou de brandir des slogans, mais simplement d'apporter à travers sa pratique quelque chose d'une vision qui fait réfléchir à cette façon dont le monde perd un peu pied quand même, le monde, la démocratie, les principes auxquels on a cru perdent pied en ce moment.
Et ce que les mots n'arrivent pas à dire, on le dit en musique ?
Parfois, oui. Oui.
Vous avez repris le violon. Vous l'aviez arrêté ?
Oui.
Après les attentats de Nice en
2000. Alors, non, j'ai repris le violon après les attentats. C'est-à-dire qu'après l'attentat de Nice, on m'a demandé d'écrire, plusieurs journaux m'ont demandé d'écrire des textes que je n'ai absolument pas réussi à écrire. Je ne trouvais pas les mots. Je trouvais ça indécent, justement, de parler de moi alors que des gens étaient morts et que ce n'était pas ma voix qu'on devait entendre, je crois. Et pendant 2-3 mois, je n'ai pas pu écrire du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné mon violon à réviser et que je suis retournée à la musique, à une pratique d'amatrice.
Vous avez fait même partie d'un orchestre, l'Orchestre des Grands Amateurs de Radio France ?
Oui, pendant un an. C'est un très gros projet. On peut participer à ce projet pendant un an et ça a été pour moi une très très belle aventure parce que l'orchestre, pour moi, c'est un modèle politique où les plus faibles s'appuient sur les plus forts, où on dialogue avec l'autre, on l'écoute. Il n'y a pas d'orchestre sans écoute. Et donc pour moi, l'orchestre est un lieu de plaisir, mais aussi un lieu de modèle politique.
La musique, de toute façon, irrigue votre œuvre. Elle est un peu partout. Il n'y a pas que Leonard Cohen. Hein. La musique, elle baigne Jacob. Il y a la musique et puis la nourriture, la cuisine.
Hein. Exactement.
Les deux arts se rejoignent dans votre écriture. J'ai presque envie de vous demander, mais je ne le vois pas. Donc, si ça se trouve, il est loin, votre violon, je ne sais pas. Ah non, il y a quand même derrière vous une partition. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de travailler quelque chose. J'ai presque envie de vous demander si vous accepteriez de nous jouer quelque chose pour terminer ces entretiens, Valérie Zenati.
Alors, il n'est pas loin. Il est rangé, mais pas loin. J'ai pensé que ça n'avait pas de sens de jouer un morceau que je travaille parce que je le massacrerais et ce serait insulte aux oreilles de vos auditeurs. En revanche, au fil des entretiens, parce que j'improvise aussi parfois pour essayer d'exprimer quelque chose, et au fil des entretiens que nous avons eus, il y a une forme d'improvisation qui est venue et qui résume ce qu'on s'est dit ou qui raconte peut-être autre chose. Je laisse à chacun la possibilité d'interpréter.
D'interpréter.
Ça. Oui.
Alors on va prendre votre violon. Enfin, vous allez prendre votre violon.
Oui.
Je passe juste la colophane.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Pour ce morceau qui traduit, là encore, sans doute c'est une forme de traduction, nos propos. Je retrouve des choses, donc j'espère que nos auditeurs et nos auditrices sauront aussi interpréter et lire à votre façon. Et puis vous savez, Valérie Zenati, quand on rencontre quelqu'un, c'est signe que l'on devait croiser son chemin. Oui. C'est signe que l'on va recevoir de lui quelque chose qui nous manquait. Et il ne faut pas ignorer ces rencontres. Dans chacune d'elles est contenue la promesse d'une découverte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aaron Appelfeld que vous reprenez en exergue dans Le faisceau des vivants, l'un de vos livres. Un immense merci pour ces 5 entretiens.
Merci beaucoup à vous.
C'était À Voix Nue avec Valérie Zenati, prise de son Lucien Lefebvre, réalisation François Test, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.